Hello les gens, c'est Ludic, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le lore d'Elden Ring. On va parler aujourd'hui de Vaik, de Shabriri et de la Flamme Exaltée. Je vous remercie pour vos retours sur la dernière vidéo, vos commentaires qui ont vraiment été très sympas, merci beaucoup. Et comme d'habitude, si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo sur le lore d'Elden Ring, qui sera certainement sur Rani, la famille Caria et tout ce qui tourne autour, eh bien pensez à vous abonner et à activer la cloche. J'en parle pas souvent, mais vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord de la chaîne pour continuer à parler d'Elden Ring ou même de d'autres sujets, hein. Vous avez tous les liens utiles en description sous la vidéo. Je vous ai tout dit, c'est parti pour l'épisode 3 déjà de l'histoire d'Elden Ring. Vous en avez forcément entendu parler au cours de votre aventure. Une entité mystérieuse du nom de Flamme Exaltée. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans un village, aux confins de l'entre-terre, habité par des gens ou des animaux aux yeux couleur dorée, expulsant de leur orbite comme une flamme qu'on viendrait d'allumer. Les trois doigts, la Flamme Exaltée, Vaik, Shabriri, et si je vous disais que tous ces éléments sont en réalité reliés, et que vous aviez absolument tout à votre disposition pour en percer les mystères. Mais l'on ne peut évoquer la Flamme Exaltée sans auparavant introduire la notion de divinité extérieure dans Elden Ring. Nombre de ces divinités seront évoquées au cours de votre périple. La volonté suprême représentée par la bête d'Elden et les deux doigts, la divinité lunaire liée à Rani, celle de la putréfaction liée à Malenia, ou celle du sang liée à Mikaela. Mais il en existe une autre, plus mystérieuse encore, qui tire son origine des faces les plus sombres de l'humanité, la Flamme Exaltée. La question est alors de déterminer comment est apparue cette Flamme Exaltée. Il faut savoir que les divinités extérieures ne peuvent pas exercer leur pouvoir tel quel dans le monde de l'entre-terre. À la manière des grands anciens dans Bloodborne, elles ont besoin pour cela d'un humain, qui leur prêtera allégeance, une passerelle en quelque sorte, qui donnera naissance à leur pouvoir. C'est ainsi que Marika devint la passerelle de la volonté suprême, Rani celle de la divinité lunaire, ou Malenia celle de la divinité liée à la putréfaction. Un pacte est alors passé avec la divinité, un pacte reposant sur un consort d'une part et sur une ombre d'autre part, une sécurité assurant que cet élu, cette passerelle, restera sur le bon chemin défini par la divinité.
And souls, but the greater will made a mistake. Torment, despair, affliction, every sin, every curse, every one born of the mistake. And so, what was borrowed must be returned, melted all away with the yellow chaos flame, until all is one again.
Si l'on en croit Ieta, un personnage relativement important dans le récit que je vais vous dérouler, la Flamme Exaltée est née d'une erreur de la volonté suprême. Elle est née du désespoir, du fléau, du malheur inhérent au monde dont nous parlons. Mais alors qui fut cette première passerelle, cet être suffisamment vil pour accueillir en lui le pouvoir de la Flamme Exaltée? C'est ici qu'intervient Shabriri, un être présenté comme étant l'homme le plus détesté de toute l'histoire de l'entre-terre. Shabriri était certainement un criminel, une personne s'étant rendue coupable des crimes les plus terribles qui soient, un être habité par le mal. La haine que les gens finirent par ressentir à son égard, du fait de ses crimes, commença alors à se manifester en lui. Ses yeux finirent par disparaître et jaillirent de ses orbites les prémices de la flamme, prête à exercer sa malédiction sur quiconque croisera son regard. Mais tout le monde n'est pas capable de supporter la flamme exaltée et de la canaliser. Ceux qui n'y parviennent pas seront alors atteints de démence, une affliction à rajouter à la longue liste de celles qui parcourent l'entre-terre. Vous avez pu en avoir un aperçu si vous avez visité le village des Démons dans la péninsule larmoyante, où les habitants ont été tout simplement consumés par la flamme exaltée, trop faible pour la canaliser. Il semblerait que Shabriri, pendant un temps du moins, fut suffisamment puissant pour la supporter et la canaliser, mais il finira, semble-t-il, par lui aussi tomber dans la démence. Fut-il vaincu au combat, ou a-t-il tout simplement disparu? Rien ne le précise clairement à mes yeux. Peu importe après tout, puisque sa mission était accomplie. Il avait donné naissance à la flamme exaltée et à tous les disciples qu'elle engendrera, notamment les trois doigts. La flamme exaltée et les trois doigts peuvent alors être mises en parallèle comme le penchant négatif de la volonté suprême et des deux doigts. Il y a fort à parier que les servantes des trois doigts, comme Iyeta, sont à la base des servantes des deux doigts, comme les augures, qui ont été corrompus et déviés de leur tâche originelle. Tout dans le monde d'Elden Ring repose sur cette notion d'équilibre entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, Radagon et Marika, la causalité et la régression dans l'ordre d'or, les deux doigts et les trois doigts, la volonté suprême et la flamme exaltée. J'y vois un moyen de la part d'Hidetaka Miyazaki et de George Martin de nous faire comprendre qu'il n'y a pas de bien sans mal, qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, et que dans chaque être humain se trouve une part plus sombre et une part plus lumineuse, et que si cet équilibre est rompu, il laisse alors la place au chaos. Mais revenons à la flamme exaltée, qui après la disparition de Shabriri, va avoir besoin de se trouver un nouvel élu, un nouvel avatar, pour exprimer son pouvoir. Et quoi de mieux pour cela que de corrompre et convertir à sa cause les élus des deux doigts destinés à devenir Lord d'Elden. Nous allons donc évoquer Vaik, chevalier de la table ronde, un sans-éclat extrêmement puissant, qui comme vous, était prédestiné à devenir le nouveau Lord d'Elden. Vous avez forcément déjà vu Vaik, puisqu'il s'agit du personnage présent sur la jaquette du jeu, témoignant de son importance dans notre histoire. Vaik va également nous permettre d'évoquer le conflit entre les dragons anciens et l'Ordre d'Or, une guerre à laquelle il a participé et dans laquelle il joua un rôle de premier ordre. Comme vous le savez certainement déjà, Marika et Godfrey ont mené un certain nombre de guerres, notamment contre les géants, contre la famille Caria, et surtout contre les dragons, qui étaient, avant l'apparition de l'Arbre-Monde, la force majeure de l'Entre-Terre. Précisons alors qu'à cette époque, Godfrey dirigeait encore l'Ordre d'Or, et qu'on ne peut donc pas encore présenter Vaik comme un sans-éclat, mais comme un simple chevalier de la Table Ronde. La guerre entre les humains et les dragons fut féroce. Le dragon Grand Saxe décida de s'attaquer à la ville capitale Leyndell, qui en garde encore les stigmates. Les humains comprirent alors que s'ils voulaient l'emporter, il leur faudrait pour cela contrôler le pouvoir des dragons pour le retourner contre eux, à la manière d'un Gwen dans Dark Souls. On peut légitimement supposer que c'est à cette époque qu'apparurent les soldats draconides et toute une panoplie d'armes forgées à base de granit, le matériau constituant les écailles de dragon. La guerre prit alors un tournant inattendu, puisqu'un respect mutuel teinté d'admiration commença à s'établir entre les humains et les dragons. Godwin, par exemple, se lia d'amitié avec le dragon Fortisax, là où sa sœur Lanceax commença à s'éprendre de Vaik jusqu'à partager son pouvoir avec lui. Elle ira jusqu'à se transformer en une prêtresse humaine pour attirer son attention. Les humains avaient donc pris le dessus sur les dragons, et une issue qu'on peut supposer plutôt pacifique se joua entre ces derniers et les humains. Des années plus tard, alors que Vaik est dorénavant un sans-éclat en quête du cercle d'Elden, il parvient jusqu'à la cime des géants. Vous pouvez d'ailleurs y affronter une version de ce Vaik dans l'une des geôles éternelles. Mais Vaik vouait une affection sans limite à sa servante des deux doigts, et refusait de la sacrifier à la flamme des géants. C'est alors qu'il croisa la route de la flamme exaltée. Il pénétra dans les égouts de la capitale et y rencontra les trois doigts, qui lui proposèrent d'accueillir en lui la flamme lui permettant d'épargner sa servante. Vaik fut pendant un temps capable de canaliser la flamme exaltée, mais comme tant d'autres avant lui, il finira par y succomber et tombera dans la démence, ce qui le conduira à tuer sa propre servante. C'est cette version de Vaik aux doigts putréfiés que vous aurez l'occasion d'affronter dans un village près de l'ascenseur de Dectus. Une victime de plus donc pour la flamme exaltée, qui n'est pour autant toujours pas rassasiée, et continue de chercher un élu capable de devenir son seigneur. Se pourrait-il que cet élu se cache en vous, oui vous devant votre écran, le sans-éclat de notre histoire? Deux personnages pourront vous conduire sur la voie de la flamme exaltée. Je veux bien sûr parler de Iyeta la servante et de Yura des doigts sanglants. Les doigts sanglants sont des partisans de Mog le seigneur de sang, qui cherchent à traquer leurs congénères. j'aurai l'occasion de vous en parler dans une vidéo dédiée à Mog et à Varé le Blême. Vous croisez pour la première fois Yura à proximité du dragon Aghil. Il vous invite alors à ne pas vous en approcher et viendra vous épauler lors de votre premier combat contre un doigt sanglant. Au fil de vos rencontres, Yura finira par vous avouer être à la recherche de Eleonara, une autre doigt sanglant pour qui il éprouve des sentiments manifestes et qui aurait succombé à sa soif de sang. Yura finira par la retrouver dans une des églises de Marika à Lendel, mais il ne parviendra pas à la surpasser. C'est à vous sans éclat qu'incombera la tâche de venir à bout d'Eleonara. Yura rendra alors son dernier souffle, non sans vous avoir remercié au préalable.
Ah non. It seems I am no match for you, but I have learned a thing or two myself. You see, I've sliced the finger off. Please. Please. Eleonora. Yield to the cis blood no longer. Do not stain the immaculacy of your sword. Your flesh. Your fire.
Mais Yura n'est pas réellement mort et cache un lourd secret. Il est en réalité habité par Shabriri, premier élu de la flamme exaltée, que l'on croyait alors disparu. Shabriri vous exhortera alors à suivre la voie des trois doigts, seul moyen de sauver Mélina, comme ce fut le cas à l'époque pour Vaik. Si vous décidez alors de suivre la quête de Iyeta et de lui remettre à plusieurs reprises des fruits de Shabriri, elle vous guidera à terme jusque dans les égouts de Lendel, devant la porte des trois doigts. Mélina vous mettra alors en garde que si vous décidez de recevoir en vous la flamme exaltée, elle n'aura de cesse de vous traquer pour vous éliminer.
If you intend to claim the frenzied flame, I ask that you cease. It is not to be meddled with. It is chaos, devouring life and thought unending. However ruined this world has become, however mired in torment and despair, life endures. Births continue. There is beauty in that. Is there not? If you would become Lord, do not deny this notion. Please, leave the frenzied flame alone.
Iyeta vous demandera alors de la convertir elle aussi, et elle hurlera de douleur alors que son corps se consumera à vos pieds. De retour à la cime des géants, vous n'aurez pas besoin de sacrifier Mélina pour mettre feu à l'arbre-monde, et une fois Radagon vaincu, vous pourrez alors éradiquer toute vie en entre-terre et devenir le seigneur de la flamme exaltée. Cependant prenez garde, car la reine aux yeux crépusculaires n'est pas loin, et elle fera tout pour vous remettre ce qui vous revient de droit, la mort destinée.
You have inherited the frenzied flame. A pity. You are no longer fit. Our journey together ends here. And remember, should you rise as the Lord of Chaos, I will kill you. As sure as night follows day, such is my duty. Lord of Frenzied Flame. I will seek you as far as you may travel. to deliver you what is yours. Destined death.